Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous de goût et de luxe. Tous les week-ends, le meilleur des tendances du luxe et des nouvelles adresses avec mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et notre luxe cette semaine avec Emmanuel, c'est de s'installer à l'hôtel. L'hôtel du quartier, en effet, les établissements chics et tendances de la capitale ne cessent de faire de l'œil aux Parisiens. Désormais, ils ont tous leur bar, leur restaurant, leur spa ouvert aux Parisiens, le spa qui est à pignon sur rue, ou même les séances de dégustation ouvertes à tous. Et ce dimanche, ils vont encore plus loin, puisqu'ils lancent l'opération, en tout cas pas tous, mais pour certains, l'opération Les Parisiens à l'hôtel. Nous découvrirons tout ceci dans un instant, avec quelques-unes des adresses parisiennes. L'hôtel Terrasse, le Terrasse Hôtel, le Cube Hôtel, le Pavillon de la Reine. Et puis une proposition de staycation avec Ninth Night. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour la nouveauté de la semaine, on accueille aussi Sandy Prenois. Bonjour,
bonjour
Sandy. Et Web de Luxe dans un instant. Mais on commence évidemment avec le resto de la semaine, Emmanuel.
Resto de la semaine, alors de quoi s'agit-il? Ça s'appelle le Bambou. C'est le genre de repère surlooké. C'était très à la mode dans les années 90. On se rappelle peut-être du Barfly, du Malray, de l'Asian. Dans les années 2000, c'était totalement passé de mode. Et puis, comme on nostalgise à peu près tout aujourd'hui, dans côté de 2016, ça revient assez fort. Ensuite, où ça se passe? Ça se passe du côté du nouveau Sentier. Alors, on savait déjà le nouveau Pigalle, on savait le 10e alternatif. Désormais, tout se passe du côté du Sentier, exactement rue des Jeuneurs. Et comment ça se passe? Alors, d'abord, surtout, et véritablement, un lieu qui l'a ramène, qui pousse sur le champignon. Alors, au sous-sol, vous allez voir, vous allez découvrir ce qu'est un vrai fumoir. C'est le grand retour des fumoirs. Là, on est à peu près dans Il était une fois en Amérique, vous savez, Robert De Niro, la scène finale, la fumerie d'opium, une salle de billard, à l'étage, un bar, un restaurant, une cuisine ouverte, et puis alors surtout, une terrasse surchauffée qui fonctionnera aussi bien cet hiver qu'au printemps prochain. On a l'impression, on est entre les paillotes de Paname et de Pattaya. Et justement, on a choisi la cuisine la plus docile, la plus disponible du moment, c'est la cuisine thaïlandaise. Alors, elle est orchestrée par Antonin Bonnet, on le connaît. C'est lui qui avait le sergent recruteur, une étoile Michelin. Il a travaillé à Bangkok, donc il connaît, il orchestre un peu cette cuisine. Cuisine disponible, on choisira notamment un choy soum au soja. Le choy soum, c'est une sorte de blette. Vous connaissez nos blettes? Elles sont travaillées ici au soja, plutôt réussies. Adresse disponible, là encore une fois, un décor bluffant. Ça fait du bien de revenir un petit peu à cette nostalgie années 90 et à ces décors qui en ont.
Bambou, 23 rue des Jeuneurs dans le 2e arrondissement de Paris. Et décidément, on est aussi, on connaissait les concept stores, maintenant on a les concept restaurants, vous venez de le dire, bars, décors, etc. qui vont avec. Et bien là aussi, c'est un nouveau lieu, vous irez tester Emmanuel, je vous en parle parce que ça ouvre là tout de suite maintenant. Coffee shop, restaurant et bar à cocktails néo-méditerranéen, tout un programme. On est dans le 10e, 22 rue d'Anguin. Et ça s'appelle Bonomi, puisque c'est Bonomi Group, bar à cocktails Little Red Door et Lulu White. C'est le même propriétaire.
C'est aussi, des bons faiseurs, hein.
Exactement, que Little Red Door. Donc, des grandes tables d'hôtes. Là aussi, un décor bien planté à la méditerranéenne. Un chef espagnol, Nicolau Pla Gomez, qui est passé par le Frenchie de chez Grégory Marchand. C'est ouvert du matin au soir, de 11h à 2h du mat. On peut aller commander jusqu'à 23h, 7 jours sur 7. Idée méditerranéenne, mais pas que. Évidemment, très très fort sur les cocktails, puisque c'est une grande équipe de mixologistes avec des jus fermentés, des cocktails ultra originaux. Vous allez tester, Emmanuel, et vous nous refaites un petit brief un peu plus tard pour Bonomi, 22 rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de Paris. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy, alors, le culte du secret, vous l'avez découvert?
Ouais, alors j'en suis pas sûre, mais enfin, en tout cas, une partie, ça s'appelle culturesecret.com, où il y a une application d'ailleurs du même nom. Ça nous permet quoi? De découvrir plusieurs événements, 10 événements par mois, sélectionnés sur le volet des ciné, des expos, tout ça. A priori, là, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. La petite chose en plus, c'est ça, c'est ce que je tiens dans les mains. Culture Secret, il propose un pass premium. C'est toujours valable pour deux personnes et on a 4 événements par mois ultra privé,
confidentiel,
où on va pouvoir aller rencontrer des stars, aller à des premières de cinéma, tout ça. Voilà, ça vient de sortir. Ils sont en train d'ores et déjà de développer le pass.
Ça coûte combien cette petite carte de crédit Super Design?
Super Design, ça coûte 19 euros par mois pour avoir 4 événements, voilà, et 19,95 si on s'abonne avec Vanity Fair, sans engagement. Ils sont en train de développer...
Ça vaut donc 5 centimes d'euros Vanity Fair.
Ouais, voilà, c'est ça. Oh là, je vais vous énerver encore une fois. C'est pas le moment, c'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire.
Un pass quand même designé par Mathieu Lehanner.
Mathieu Lehanner, exactement. Et là, ils sont en train de développer un autre pass qui s'appellera le pass Platinum. Et il y aura encore des choses beaucoup plus privilégiées pour un cercle très très particulier.
Très confidentiel. Culture secret au pluriel, point com. Et Mlle Litchi, elle fait quoi?
Mlle Litchi, elle s'appelle Céline. Tout d'abord, c'est une Française qui développe plein de trucs, qui voyage, qui aime la nourriture, tout ça. Et elle nous fait partager ça sur tous ses réseaux sociaux. Moi, je me suis arrêtée sur son Insta qui est superbement fait, avec des photos absolument magnifiques, des fois en mouvement, tout est très orchestré. Et puis surtout, on découvre ses voyages, c'est vrai, mais on découvre surtout ce qu'elle mange, ce qu'elle déguste. Et c'est super bien fait. Ça nous renvoie à un site qui s'appelle frappéparlafood.com. Là aussi, c'est un site qui est très très bien orchestré, il faut le dire, c'est assez rare. Il y a des recettes, mais pas que. On découvre aussi tous les challenges qu'elle fait. Par exemple, il y en a fait un à l'auberge de la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Ce qui est cool.
Ça, c'est un vrai challenge.
C'est la seule qui soit allée.
Oui,
quoi.
Mais justement.
Oh là, elle est fatiguée, là.
Ouais, non, elle est pas fatiguée, justement. Elle propose de
Comment
c'est ça y est, vous êtes tout de suite. C'est pas possible aujourd'hui. Emmanuel est énervé, il faut le préciser aux auditeurs. Du coup, je la cite parce que j'aime bien ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai réalisé par exemple un millefeuille fraises et citron. Je l'ai refait chez moi en suivant l'avis des chefs. Et j'ai raté. Et ben, je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans cette ville à cause dire j'ai raté, mais je m'en suis sortie en faisant autrement des verrines et ceci et cela. Et ben, je trouve ça humain. Ça fait du bien.
Mlle Litchi, une foudingue à découvrir sur Instagram avec de jolies photos. Rapidement, My Wits.
Comment il se fout de ma.
Ah non, mais la
mère
Poulard.
My Wits, rapidement.
My Wits, rapidement. WITS, ça permet de localiser les commerces de proximité, fromagers, charcutiers, tout ce que vous voulez. On se fait livrer à la maison avec 6,50€. Ça fonctionne à Paris pour le moment. Petite Couronne, Toulouse et Chartres. Et ce sera d'ici fin 2017 dans 10 grandes villes en France. Il y a aussi la possibilité d'aller chercher en magasin ses produits frais sans faire la queue. Et le truc un petit peu sympa, qui est assez rare, c'est qu'on peut aussi, après la fermeture des magasins, aller chercher son panier fraîcheur aux bornes Autolib. C'est un service qui fonctionne, ça s'appelle Blue Distrib. Et ben, je trouve ça plutôt cool là aussi. J'ai parlé de trucs cool. Ça
vous êtes super cool. Alors merci beaucoup.
Même si Emmanuel n'était pas d'accord.
Non, mais c'est la mère Poulard qui m'étonne.
Emmanuel, vous allez être super cool. Et en 30 secondes, vous allez me parler de In God We Trust parce que l'élection américaine oblige.
Exactement. À quelques jours de l'élection américaine, ça a ouvert au mois de septembre. Ça s'appelle In Good We Trust. 67 rue Quincampoix, la plus petite rue de Paris, enfin la moins large. Alors on va pas dire un concepteur, on va dire un lieu dédié à ce qui fait le goût américain. Alors, pas simplement en termes d'épicerie fine, puisqu'on y trouve aussi du design, de la cosméto, et puis ce qui est intéressant quand même, puisque c'est ce qui m'intéresse d'abord et surtout, c'est tout ce qui est American Test, saveur américaine. Ils ont le mérite aussi de raconter en quelques saveurs, en quelques flacons, en quelques produits, non pas une Amérique de la junk food, pas seulement en tout cas, mais une Amérique du pop terroir. On découvre des saveurs venues du désert, on découvre des épices inattendues.
Une autre Amérique, comme quoi il y a pas que New York.
Des bières de Brooklyn, des whisky testés, des bières, c'est bien.
C'est 67 rue Quincampoix dans le 3e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si vous avez Je ne sais pas si vous avez remarqué, je porte une très jolie cravate à plumes bleu marine confectionnée main. Le plumassier, c'est Éric Charles Donatien. Le cravatier, c'est François-Régis Laporte. La maison, c'est Maison F. Des couturières qui sont sur Paris. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il faisait déjà des cravates, des nœuds papillons pour les hommes. Et il sort toute une ligne pour vous, mesdames, pour vous, mademoiselles. Allez-y, mettez-en un. C'est absolument magnifique. Il y a 400 choix de tissus, les plus beaux tissus, pour la plupart des tissus lyonnais. Satin, tuile, jacquard, natté de soie, des lavalières.
Super,
c'est magnifique, des cravates courtes ou croates, des nœuds papillons, twist ou à embout inattendu. Certains, on dirait des animaux. Regardez, c'est absolument magnifique.
Ça.
Et c'est sexy. C'est
sexy. D'accord. C'est sexy. Retirez le pull et le
reste. Non, mais c'est ça. J'ai pas le pull le plus approprié aujourd'hui, mais c'est juste absolument magnifique. C'est du fait main, c'est du designé parisien. Tout est magnifique. Voilà.
Non, plus que les oreilles de lapin.
Ah non, c'est très joli, Sandy. Si vous pouviez nous montrer Sandy avec l'un de ces magnifiques nœuds papillons de la Maison F. Carré rive gauche, 42 rue Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, pour découvrir ces nouveautés, la collection femme de la Maison F. Allez, tout de suite, notre lieu de la semaine, nous... Merci beaucoup, Sandy.
Salut.
C'est cool, vous revenez la semaine
prochaine. L'hôtel.
Nous, on est pressés, on s'arrête à l'hôtel, l'hôtel dans Paris. À tout de suite.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end... Le luxe de la semaine.
Et Et le luxe de la semaine, c'est de s'arrêter à l'hôtel. Non, mais pas l'hôtel de l'autre bout du monde. Non, non, l'hôtel de près de chez soi, quand on est parisien. L'hôtel du bout de la rue, l'hôtel du quartier ou l'hôtel de la rive en face. Pourquoi ? Eh bien, parce que figurez-vous que de plus en plus, ces hôtels parisiens ont envie de vous séduire, hein, messieurs, dames. Et tant que ce week-end, ce dimanche 6 novembre, il y a l'opération Tous les Parisiens à l'hôtel. C'est un salon professionnel, Équipe Hôtel et la mairie de Paris qui incitent, qui ont lancé cette opération. On va y revenir dans un instant. Puis il y a tout ce que font aussi tous les autres hôtels qui ne participent pas pour vous faire découvrir l'expérience hôtelière parisienne. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jérôme Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Propriétaire de l'établissement Le Pavillon de la Reine. On est du côté de la place des Vosges.
Exactement, sur la place.
Sur la place même. Nous sommes également en compagnie de Nocker Peter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'établissement Le Cube Hôtel, oui. Avec un K, K-U-B-E Hôtel. Et là, on est du côté du 18e arrondissement.
Oui, c'est ça, juste au-dessus de la gare du Nord.
C'est bien, on se fait une petite balade en Paris en même temps. Romain Binet, bonjour.
Bonjour.
Directeur général du groupe hôtelier Maurice Suron et directeur du Terrasse Hôtel. Terrasse Hôtel Paris, on est...
18e. À Montmartre.
À Montmartre. 18e. C'est ça, on n'est pas très loin non plus. Et puis Mathieu Ecolan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Night Night et vous proposez de la staycation. C'est quoi la staycation ?
La staycation, ce sont des offres exclusives pour permettre aux Parisiens de profiter des meilleurs hôtels de Paris.
Donc vous allez dans tous les quartiers. On va y revenir dans un instant.
Exactement,
avec pas mal d'hôtels. Allez, cette opération Tous les Parisiens à l'hôtel, l'idée, vous allez non pas dormir, ça sera peut-être la prochaine étape, mais au moins dans un premier temps, prendre un verre, un brunch, un déj, que sais-je, dans un restaurant qui participe, et bah, vous ne payez que la moitié du prix. C'est pas mal. Ça, pourquoi vous avez eu envie, Jérôme Chevalier, de participer avec le Pavillon de la Reine à cette proposition ?
On a envie justement de faire participer tous les Parisiens à la vie, des hôtels. On s'aperçoit que maintenant les hôtels sont devenus des véritables lieux de vie. C'est plus comme il y a un certain temps où l'hôtel c'était un endroit où on allait simplement dormir. Maintenant les choses ont évolué. Vous allez dans les pays anglo-saxons, vous apercevez que les hôtels sont des véritables endroits où les gens échangent, les businessmen ils font des rendez-vous, les touristes ils vont se détendre. Et donc on se dit qu'à Paris il faut qu'on se mette à la page et que effectivement il faut que les Parisiens et les Parisiennes et éventuellement les touristes de passage viennent dans les hôtels consommer, participer à la vie de l'hôtel.
Ouais, pas seulement pour dormir. Donc, mais c'est vrai qu'on n'ose pas.
Eh ben, ils ont bien tort.
Ça a changé quand même.
Ça a changé.
Justement, la question, c'est moins de savoir si en 15-20 ans, Paris s'est mis au diapason. Parce qu'il n'y avait pas une culture de l'hôtel ou du palace de la part des Parisiens. C'était plus une culture anglo-saxonne. Depuis 15 ans, ça a changé.
C'est
la question, c'est plutôt de savoir si oui ou non, les Parisiens vont coucher à l'hôtel dans leur propre ville, ou est-ce que ça reste un fantasme entre le 5 et le 7, voire le 5 à 7 ?
Je dirais pas un 5 à 7. Moi, j'ai autour de moi des amis qui en fait, aiment aller à l'hôtel aussi le week-end. Ils aiment, plutôt de partir dans une autre capitale européenne ou même en province. Ils disent, bah, pourquoi pas aller se détendre dans notre ville. Et je peux vous dire que c'est un véritable détente et
dépaysement
que d'aller à l'hôtel.
C'est un bout du monde.
C'est quelque chose de bout du monde.
Il faut dire qu'on n'a pas tous un petit palais du côté de la place des Vosges.
Petit palais, le mot est un petit peu fort. Hein, mais
ah bon,
bon
pavillon de la Reine.
Je vous remercie, mais écoutez, il y a plein d'autres hôtels.
C'est pour ça qu'on vous a choisi, parce que pavillon de la Reine, on est quand même, voilà, on se pose là, on est place des Vosges, on est dans le grand classicisme. Le Cube Hôtel, là, on est sur du catégorique, sur du design. Nocker Peter, sans aller jusqu'à aller dormir, forcément, l'idée, c'est d'offrir des expériences. Et l'expérience du Cube Hôtel, depuis quelques années maintenant, mais il vient de rouvrir, ça y est, c'est la saison, c'est Lights Bar.
C'est l'Ice Cube Bar, voilà, effectivement. L'idée, c'était à l'époque aussi de faire venir les gens dans un quartier, les 18e, qui n'est pas forcément toujours un quartier facile.
Vous étiez un peu précurseur. Maintenant,
voilà,
ça a bougé.
Ça a bougé, mais de ce côté-là du 18e, à part la Villette, à part Montmartre, là où se trouve le Cube Hôtel, il y a toujours un petit peu d'appréhension pour venir nous voir. Et l'Ice Cube Bar, c'était un moyen aussi d'attirer les gens, et en plus de les faire découvrir l'hôtel, le restaurant, et de proposer une expérience.
C'est quoi l'Ice Cube Bar ?
Alors, l'Ice Cube Bar, c'est un endroit où il fait moins 18 degrés. Mm-hmm. Une décoration en glace, sculptée et rénovée tous les ans. où vous pouvez déguster des cocktails à base de vodka pendant une session de 25 minutes.
Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, création de Cube Hotel en 2007,
oui.
Bientôt 2017, 10 ans, vous avez été l'un des premiers hôtels à effectivement ouvrir le Paris des Faubourgs aux aides des quartiers qui n'est pas des quartiers attendus, non seulement des Parisiens qui n'avaient même pas le talent d'aller ni dans un restaurant ni dans un bar au-delà des quartiers centraux. Oui. On peut s'imaginer, se poser la question si les touristes osaient aller dans le 18e. 10 ans après, c'est quoi le bilan? Ça doit pas être si mauvais si vous êtes toujours là. Mais votre clientèle, c'est quoi? Ce sont des Parisiens qui viennent pratiquer le Ice Cube Bar ou des touristes qui viennent enfin oser des quartiers un peu périphériques, un peu des quartiers de faubourg pour passer une nuit?
Alors c'est vraiment très très mélangé. Pour ce qui est de l'hôtel, on a une clientèle mixte, français, une clientèle française, mais aussi une clientèle étrangère. Les hommes d'affaires, la plaine Saint-Denis s'est beaucoup beaucoup développée
avec toute la partie, les zones.
Et du coup, ça nous fait quand même aussi les hommes d'affaires qui arrivent avec l'Eurostar, qui arrivent avec le Thalys. Du coup, les infrastructures se sont développées. Et du coup, aussi la clientèle s'est développée et aussi l'appréhension des Français par rapport au quartier, c'est moins un problème. Par exemple, pour les Londoniens, pour les Berlinois, parce que eux, dans leur propre ville, ils ont des quartiers un petit peu comme les 18e, et ça leur pose un peu moins de problèmes.
Après, enfin, la gentrification des quartiers parisiens.
Oui, voilà. C'est... Par contre, pour l'Ice Bar, ça a toujours été une attraction pour les Parisiens, aussi pour tout ce qui est Île-de-France, je dirais, parce que c'est ça. Et aussi beaucoup, beaucoup de sociétés. Les sociétés ont fait beaucoup dans l'événementiel.
C'est ça. Voilà. Vous tenez 25 minutes à moins de 18 degrés et vous avez gagné
vous avez une chance d'avoir les bonnes évaluations. C'est bientôt la saison.
Alors, ce dimanche, donc, chez vous aussi, il y a une petite proposition.
Voilà.
C'est ça, c'est au bar, c'est au restaurant.
C'est au restaurant sur le brunch et aussi sur le bar, l'addition à moins 50%.
Donc voilà, c'est le moment d'en profiter. Il y a une trentaine au moins d'autres hôtels parisiens. Je ne peux pas tous les citer. Non, je ne vais pas tous les citer, mais ça va de l'hôtel Indigo Paris, le Docans, le Inca, le Normandie. Il y a beaucoup d'hôtels de chaîne aussi, le W Paris Opéra, l'Échiquier, Marriott Rive Gauche, pas mal aussi parmi les récents, le Bouté, Bastille, M Gallery. Je vous vois hocher la tête. C'est parce que vous avez travaillé avec Mathieu. Enfin, et puis ceux qui n'y participent pas participeront peut-être l'année prochaine à cette opération lancée par Équipe Hôtel et la mairie de Paris, ou alors font d'autres propositions comme le Terrasse Hôtel. Romain Binet, qu'est-ce que vous avez trouvé pour attirer les Parisiens? Parce que finalement, vous avez tous la même problématique aujourd'hui aussi, parce qu'il faut le faire vivre à longueur de journée. Il ne faut pas seulement le faire vivre la nuit, l'hôtel.
Complètement. Alors pour moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Le but d'un hôtel, et ce que recherchent les Parisiens, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de sociabilisation. Et donc le bar, le resto en fait partie entièrement. Au Terrasse Hôtel, on a la chance d'avoir une terrasse qui maintenant est ouverte toute l'année, parce qu'on a la partie panoramique.
Ah ouais, une vraie terrasse qui surplombe.
Et c'est un vrai atout pour l'hôtel. Pour nous, il n'y a rien de pire d'avoir un hôtel mort. Même pour les clients extérieurs, pour les touristes, ils cherchent de la vie, ils cherchent un endroit authentique avec des vrais Parisiens.
Donc d'ailleurs, sur votre terrasse, vous la faites vivre. Vous avez même eu des séances de yoga. Il y en a peut-être moins là pendant
l'hiver. Alors, on a eu des séances de yoga. On a fait les diffusions de l'Euro 2007, de Roland-Garros. On a fait des barbecues. On a fait et on va la couvrir pour l'hiver. Et on va faire une terrasse hivernale. Donc on travaille là-dessus, vraiment. On fait tout pour que cette terrasse, elle vive un maximum. Ouais.
Alors, c'est pas un nouvel hôtel, hein, le Terrasse Hôtel?
Pas du tout. Il a été fait par mon arrière-grand-père en 1911.
1911. Alors, depuis, il y a eu beaucoup de toilettage, comme on dit. Le dernier en date, je crois que c'est 2015. Là encore, un quartier qui n'était pas évident. On est dans le 18e. On est à bord de Montmartre, mais pas tout à fait non plus.
On est un peu la porte de Montmartre. C'est vraiment l'entrée de Montmartre, au tout début de Montmartre. Je pense que c'est un quartier un peu plus évident et c'était un peu moins risqué que le Cube, c'est clair. Mais aujourd'hui, les choses ont énormément évolué. Tout Paris est fréquenté par les Parisiens et il n'y a plus vraiment ces barrières psychologiques qu'il y avait avant. Ouais.
Ah, ça dépend des quartiers, mais c'est vrai que le Nord, contre toute attente, le 18e, ouais. On voit beaucoup d'hôtels fleurir. Le Terrasse Hôtel qui est un vétéran, mais qui a toujours bougé. Le Cube Hôtel, j'en passe des meilleurs. On voit la renaissance de Pigalle. Pigalle, il est passé directement des hôtels les plus crapoteux, les plus interlopes de la capitale, aujourd'hui aux hôtels les plus branchés. Ouais. En revanche, du côté de la rive gauche, le 15e arrondissement, si cher à BFM Business. Là, il y a encore du travail.
C'est un studio, tout simplement.
Mais justement, est-ce que là encore, c'est les Parisiens qui font bouger les choses, ou est-ce que c'est la clientèle étrangère? Et vous le citiez, hein, Peter, les Nordiques, les Anglo-Saxons ont l'habitude, parce que leur capitales sont formatées différemment. On sait bien que Londres, le centre de Londres, où il commence, où il finit, on ne sait pas très bien. Quand on est en banlieue à Londres, on est très très loin du centre londonien. Et eux, ils ont une culture du quartier, une culture de l'hôtel. Est-ce que ça commence à venir? Est-ce que ce sont encore une fois les étrangers qui font bouger les choses, ou les Parisiens?
Non.
Parce qu'en réalité, c'est des gros frileux, les Parisiens. Quoi, des gros paresseux.
Les étrangers ont amené la mouvance, ont l'habitude chez eux. Mais c'est les Parisiens qui font vraiment changer les choses à Paris. Les étrangers en proportion sont quand même beaucoup moins. Le bar et resto, c'est 90% de Parisiens.
Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un hôtel, si on oublie de passer la nuit, ou plus que la nuit, dans un hôtel ou un week-end, c'est quoi d'abord? Faut miser sur la gastronomie, c'est-à-dire le restaurant. On a vu ces dernières années que c'était quand même la porte d'entrée. Ouais. Est-ce qu'il faut miser sur les spas? Est-ce qu'il faut miser sur les bars? Est-ce qu'il faut miser sur un entertainment inattendu?
Tout, c'est une expérience. Ils veulent sortir de chez eux. Ils veulent avoir une expérience qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc aujourd'hui, au terrain, c'est un exemple, on a la vue, donc on joue là-dessus à fond, mais en même temps, on joue la carte également de la gastronomie. On a une belle carte, on a des produits de saison qui sont travaillés. On vient d'ouvrir un petit spa également.
Avec Nuxe.
Avec Nuxe, donc c'est un petit espace qu'on a ouvert il y a un mois à peine. Et les Parisiens viennent. C'est les Parisiens qui viennent.
Alors, quand on va plus loin, c'est là qu'intervient
Mathieu.
Mathieu et Collant, vous vous êtes dit, c'est bien tout ça, mais finalement, ce qui existe déjà aux États-Unis, d'ailleurs, il faut faire plus. Il faut aussi que les Parisiens osent aller passer la nuit.
Exactement. C'est surtout que vous parliez d'expérience. Nous, on voit vraiment l'hôtel comme un nouveau format de divertissement. Et on pense que ça va être vraiment la nouvelle tendance à Paris, au même titre qu'on a eu la bistronomie ou les bars à cocktails. On se dit qu'il y a vraiment un truc à jouer. Et pour quand on voit tout ce qui se fait justement côté hôtelier, que ce soit au niveau des chaînes ou des indépendants, pourquoi est-ce qu'on réserverait ça aux voyageurs de passage? Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas profiter les locaux? Donc l'idée, nous, avec notre offre, c'est d'arriver à reconnecter les hôtels et les locaux en proposant des offres un peu découvertes avec des tarifs hyper intéressants.
Défiant toute concurrence.
Hyper intéressants, mais négociés avec les hôteliers uniquement sur le dimanche soir.
Ouais, parce que c'est là qu'ils ont besoin.
On raconte le procès. Ouais,
c'est
quoi cette histoire du dimanche soir?
Le dimanche soir, c'est
un peu sinistre.
Il y a deux constats. En fait, on est.
Ça, c'est vos mauvais souvenirs. Quand il fallait reprendre les cours.
N'en parlez pas, j'essaie plus trop de penser.
C'est pareil.
L'idée, c'est que d'abord, c'est devenu un constat business. On a été très pragmatique. En discutant avec les hôteliers, ils nous disent le dimanche soir, la clientèle business n'est pas encore arrivée et la loisir est partie. Donc, moi, j'ai de l'inventaire disponible. Donc, potentiellement, je peux faire des offres un peu intéressantes. Et côté client, le dimanche soir, c'est un peu la loose, c'est un peu la déprime. Du coup, on se dit, pourquoi pas s'offrir un petit luxe et booster sa semaine en allant à la nuit à l'hôtel plus loin, pas uniquement aller au restaurant ou dans les bars, mais aussi passer une nuit à l'hôtel,
faire
des dépaysements. Ouais, passer une nuit à l'hôtel.
Et du coup, pour y avoir le droit à ces offres, comment on fait?
Alors là, pour l'instant, vous allez sur le site staycation.fr, vous inscrivez à notre newsletter et toutes les semaines, donc c'est les offres de dernière minute, toutes les semaines, on met en avant quelques hôtels, une sélection d'hôtels.
Donc,
Il faut être assez rapide. Et l'idée, c'est de prévoir, il y a un petit côté spontané, mais profitez pour votre dimanche soir avec votre copine, votre copain ou votre meilleur ami pour profiter de ces offres-là.
Avec un appel d'offres en termes de prix?
C'est ce qu'il me disait. On est quoi, moins 60%?
De quoi?
On négocie, par exemple, à partir de
59 euros. C'est la grande mode désormais à Paris, c'est de négocier les prix des hôtels.
À partir de 59 euros la nuit, vous pouvez avoir un hôtel canon indépendant dans le 10e arrondissement. Donc c'est génial.
Voilà, pour le citer. Ce qui est intéressant, là, on a avec nous quelques hôteliers avec des propositions totalement différentes. Même si vous êtes tous les deux dans le 18e avec le Q, avec le terrasse, on est sur des décors, sur des propositions, des expériences différentes, des histoires différentes. Le pavillon de la Reine, on est encore sur une autre histoire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu se multiplier ces dernières années. C'est que chaque hôtel a véritablement une histoire, une expérience, même les chaînes, je parlais de M Gallery tout à l'heure, ou les grandes chaînes comme Renaissance ou que sais-je, font des hôtels à histoire et à identité forte. Ouais. Et c'est ça qui a déclenché aussi toute cette idée-là.
Oui, exactement. L'idée, c'est qu'on voit les hôtels, c'est presque des destinations à part. Donc, pourquoi j'ai pas besoin d'aller à Barcelone pour profiter d'un super hôtel. Je peux en profiter directement dans ma ville. Et puis, chaque hôtel, soit un peu sur le design, soit sur le restaurant, soit sur le spa, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des expériences hyper différentes. Et nous, on voit voir un petit peu. On espère que les Parisiens vont s'amuser à collectionner un petit peu ces hôtels.
Alors, on va faire une petite pause.
La manière de ce qui se passe depuis 15 ans sur la gastronomie.
Exactement, oui.
Alors, on fait une petite pause et puis après, on rentrera justement avec vous dans quelques-uns de ces hôtels. On rentrera aussi avec vous, messieurs, sur ces expériences. On en a parlé vite fait comme ça, mais on voudrait bien savoir comment s'installe au pavillon de la Reine, tout ça. Là aussi, vous avez une terrasse. Ouais, on parlait de la terrasse tout à l'heure. Bon, vous avez aussi quand même une belle terrasse.
Mais on a la place des Vosges. Ça va, comme terrasse.
Allez, on fait une petite pause. Dans Goulis, on se retrouve juste après. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et le luxe de la semaine, ce week-end, c'est de s'installer à l'hôtel. Vous êtes parisien, vous êtes francilien, vous avez envie de dépaysement, vous avez envie d'une expérience différente. Il est temps de découvrir les hôtels près de chez vous. Ce week-end, il y a l'opération Les Parisiens à l'hôtel, lancée par Équipe Hôtel et la mairie de Paris. Mais c'est pas la seule raison et le seul moment pour profiter des hôtels. C'est ce que nous racontons avec Jérôme Chevalier, propriétaire, carrément, monsieur le propriétaire, du pavillon de la Reine. Nocker Peter, directeur de l'établissement Le Cube, c'est dans le 18e. Romain Binet, le Terrasse Hôtel, dans le 18e aussi. Et puis Mathieu Écolan, cofondateur de Night Na, qui vous propose, lui, de découvrir plusieurs hôtels parisiens à des prix défiant toute concurrence le dimanche soir. C'est ce qu'il vient de nous expliquer.
Ah, l'hôtel du dimanche soir, on dirait du Truffaut. Ouais.
Exactement.
Moi, j'adore ça.
Il y a quelque chose dont vous ne nous avez pas parlé tout à l'heure, parce qu'on, ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est que c'est, vous proposez de véritables expériences pour attirer et pour séduire, surtout, finalement, tous les gens de passage. On a parlé des terrasses, on a parlé du bar glacé, on a parlé de spa. Vous avez rajouté deux petites choses chez vous, Romain Binet. D'abord, vous êtes payé une cabine du studio Harcourt.
Alors, ça fait un an maintenant qu'on travaille avec Harcourt. Et on a une petite cabine.
Donc, c'est un photomaton Harcourt.
C'est un photomaton Harcourt qui est directement placé dans le hall et qui est accessible, bien sûr, à nos clients, séminaires aussi, mais aussi aux clients extérieurs. Donc on a un petit affichage à l'extérieur, les clients extérieurs peuvent venir dans le hall faire leur petite photo.
Et ça, c'est un petit truc. Ouais, vous n'avez pas un petit truc comme ça aussi au Cube Hotel, à part le bar glacé, pour attirer comme ça, mine de rien, le petit truc. Venez nous voir, on a l'impression, vous savez, voir le petit appart.
Alors, chez nous, ça se trouve plutôt à l'intérieur des chambres. C'était le concept en 2007 avec les salles de bain ouvertes sur la chambre. On était pareil précurseur à l'époque. Ouais. Et ça crée une ambiance pareil, très intimiste, très joueur. Parfois, la salle de bain se trouve derrière la tête de lit et on a le jeu de lumière avec les briques en verre. Du coup, nous, ça se passe un petit peu plus dans l'intimité.
J'imagine, au pavillon de la Reine, quand vous entrez, c'est ça.
Mais c'est intéressant, le pavillon de la Reine, parce que là, effectivement, le Terrassé Hôtel, qui est un vieil hôtel, hein, 1911, on l'a dit, mais qui n'a pas eu de cesse, d'abord parce qu'il était un quartier un peu plus délicat, il n'a eu de cesse de se réinventer. Le Cube Hôtel, là, il appartient à ce qu'on a appelé la génération des design hôtels. Mais le pavillon de la Reine, c'est vraiment l'un des plus beaux hôtels de Paris. C'est l'un des rares hôtels de charme, véritablement, avant que ce soit la mode, au sein de la capitale. Il faut imaginer ce qu'est la place des Vosges. Même quand on fait le tour de la place des Vosges, on ne le devine pas forcément. Alors lui, il est vraiment dans les grands codes de ce qu'est l'hôtellerie de charme, presque classique, mais quand je dis classique dans le beau sens du terme, comment un hôtel pareil arrive justement à recadrer à l'époque? Est-ce que vous jouez sur le fait que peut-être certains... clients sont un peu fatigués des design hôtels, des concept hôtels et veulent un petit peu revenir à quelque chose de plus cossu, pifeutré. Ou bien est-ce que vous êtes obligé, vous aussi, de bousculer les codes, même si vous êtes installé dans le quant à soi d'une très belle maison?
Je vais être caricatural. Est-ce qu'au lieu du brunch, vous proposez un tea time?
Alors, on propose évidemment un tea time, mais vous êtes un petit peu caricatural.
Râle, mais n'hésitez pas.
Alors, Pagnon Larem, vous savez que c'est depuis des années, en fait, c'est un travail constant de tous les jours. Donc, on s'efforce tous les jours de faire en sorte que l'hôtel évolue. On refait des chambres tous les ans. On investit, on a parlé d'un spa. Voilà, il fut un temps, j'ai connu l'hôtel. Vous aviez la salle du petit-déjeuner qui était au sous-sol. Vous voyez, un petit tristoun avec le petit salon, avec sa cheminée. Bon. On a fait en sorte de changer tout ça. On a agrandi les salons. En bas, à la place, on a fait un spa. Donc, on a fait des choses pour que l'hôtel évolue. Bon, évidemment, on mise aussi sur l'aspect géographique de l'hôtel, de la place des Vosges. Donc, on fait profiter les clients de la place. On met à disposition des des vélos pour qu'ils aillent découvrir le Marais, mais également de Paris. C'est un travail constant. On a mis en place, par exemple, si vous voulez, un système de Donestibar. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on veut jouer à la carte où le client, il veut se sentir un peu dans une maison. Hein. Donc, il y a un Donestibar à disposition dans les salons. Il se sert son
whisky. On rappelle un Donestibar, hein, un bar. C'est un open bar, on paye à la fin, mais il faut avoir un peu de diplomatie.
Mais ça, c'est pour les clients extérieurs. Si on revient à nos clients de passage.
Clients intérieurs, vous voulez dire, enfin, les clients de l'hôtel. Ouais. Les clients de passage.
Ouais. Les clients de passage, vous n'avez pas de restaurant. Donc, vous avez un bar, en revanche, pour les séduire. Mais vous allez bientôt offrir une petite carte snacking, justement.
Alors voilà, donc peut-être au-delà d'une carte snacking, effectivement, on veut évoluer aussi avec le temps et faire en sorte que la restauration soit montée de gamme. Donc on a fait aussi des travaux pour mettre en place une infrastructure qui permet de faire une grande restauration. Et un petit scoop sur le plateau. Donc dès début d'année de 2017, on sera en mesure de faire de la restauration non seulement aux clients de l'hôtel, mais aussi aux clients extérieurs.
Et voilà, ça vous permettra d'aller redécouvrir le pavillon de la Reine. Et Mathieu Écolan, avec Night Night, vous avez fait donc le tour de tous ces hôtels un petit peu parisiens qui proposent des choses diverses et variées. Mmh. Et vous travaillez avec des hôtels comme Pigalle, comme le
Le Bouté Bastille, qui est un 5 étoiles, qui est le seul 5 étoiles rive droite, avec le Off Paris Seine, qui est le premier hôtel flottant sur Seine. Vous avez une expérience assez canon où il y a certaines chambres qui ont vu directement sur la Seine, le Panache aussi qui est dans les faubourgs. Enfin, il y a vraiment.
Du côté de Pigalle, il y a les deux. C'est vrai qu'on en avait parlé. On disait que ça bougeait beaucoup. Il y a eu le Pigalle, le Grand Pigalle. Ça, c'est deux aussi avec lesquels vous travaillez parce que ils sont nés eux avec cette idée de faire vivre l'hôtel avec les Parisiens.
Ouais, ils ont complètement changé le quartier. Effectivement, on parlait des bars entraîneuses, etc. Ce qui est intéressant aussi avec le Pigalle, c'est qu'ils ont essayé de garder cet esprit de quartier. Et justement, ils font venir uniquement des disquaires du quartier. La carte est faite par des gens du quartier. Enfin, ils ont vraiment travaillé cette idée de quartier. Ils proposent déjà des offres aussi pour les gens du 9e.
La nuit des voisins, je crois, c'est ça.
Exactement, qui est assez canon. Et on sent qu'il y a une émulation. Enfin, en tout cas, il y a des gens du quartier qui viennent déjà profiter de l'hôtel et du bar. Ouais.
Night, justement. Il y a une sélection en termes d'hôtels. Vous parliez que vous inspiriez beaucoup de ce qui s'était fait ces dernières années en matière de gastronomie, et notamment, on peut le citer, peut-être ce qui a activé le foodie à travers la bistronomie. Est-ce que le foodie, il y a une vraie sociologie de public? On n'est pas obligé de le qualifier de bobo, mais quand même. Et puis avec une vraie typologie de quartier, une vraie sociologie de client. Est-ce que vous, de la même manière, dans vos hôtels, vous sélectionnez ce même genre de typologie d'hôtels, plutôt dans des quartiers qu'on n'attendait pas, des hôtels peut-être moins attendus, plus disponibles?
En fait, avec Night Night, la comparaison du foodie...
Vous citez le Pouillal et compagnie, on sent bien que c'est la même sociologie.
Exactement. On aime dire qu'à la manière du foodie, on essaie d'ambiancer un petit peu le milieu de l'hôtellerie qui peut être un petit peu poussiéreux, en tout cas pour une certaine génération, où j'ai surtout Airbnb qui utilise des codes
et
qui
parle
vraiment à ces gens-là. Alors que justement, il y a toute une œuvre d'hôtels qui aujourd'hui s'adresse vraiment à notre génération. Donc on essaie d'utiliser cette tonalité-là pour présenter nos hôtels. Et ensuite, en revanche, quand on est sur un public parisien, parce que Night Night, on propose aussi, on sélectionne des hôtels à travers le monde, mais pour une cible de parisien, on se dit pourquoi pas être sur un segment un tout petit peu plus haut de gamme, parce que quand je suis dans ma ville, je peux m'offrir un luxe, et c'est justement le spa ou la terrasse ou l'expérience que je peux avoir avec le Cube Bar, c'est quelque chose que je vais rechercher encore plus quand je suis dans ma ville.
Qu'est-ce que, on va terminer là-dessus, mais est-ce que vous avez d'autres hôtels, hein, c'est un groupe hôtelier familial, Maurice Suron, qui appartient à Terrasse Hôtel, Romain Binet. Qu'est-ce que, vous ouvrez l'Artus d'ailleurs là, du côté de Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pourriez offrir de plus justement original, ou qu'est-ce que vous rêveriez d'offrir comme expérience aux Parisiens, au-delà d'un hôtel en lui-même? Parce que j'ai vu qu'il y avait des hôtels qui faisaient des dégustations de miel, des dégustations de vin. La Réserve, j'en parlais cette semaine dans Good Luxe Paris, qui ouvre sa bibliothèque véritablement avec son fumoir. Enfin, il y a mille et une propositions aujourd'hui, c'est assez incroyable.
À la fin, on dormira même plus.
Mais c'est ça. Mais vraiment, poussez la porte de ces hôtels, parce qu'il y a mille et une manières de vivre.
On développe toutes les offres annexes à l'hôtellerie, l'hébergement pur. Donc, dans les petits hôtels ou le terrasse hôtel, on essaie de réfléchir à toutes ces offres différentes. Après, ça dépend des hôtels.
On vient même chercher sa bûche à l'hôtel maintenant.
Exactement.
Ça, c'est un truc réservé au palace aussi. Et désormais, vous faites aussi votre bûche.
On a des talents, on a un chef pâtissier dans l'hôtel, on essaie de le mettre en avant. Alors, la bûche, c'est un exercice très très standardisée, très codifié, l'hôtellerie, ouais. sur laquelle on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Mais il fait plein d'autres choses beaucoup plus originales. Mais bon, la bûche
oui, mais
également,
c'est un moyen de faire venir les voisins aussi.
Et c'est le moyen de faire venir les voisins, et tout à fait, comme la galette.
Il reste 30 secondes, je vous laisse la parole. Pour ce dimanche, ça va être compliqué. Mais pour le week-end prochain, la belle chambre, le numéro de la chambre qu'il ne faut pas louper au Terrace Hôtel, c'est laquelle?
La 803.
Voir si vous connaissez. À combien?
La 803.
La 803.
Okay. Allez,
même
la
question.
Suite nordique.
À combien?
La suite nordique.
La suite nordique.
Elle n'a pas de numéro, c'est un nom.
D'accord. Le pavillon de la reine.
La prochaine?
La suite de la reine. La prochaine, ça sera en janvier, mais la suite de la reine.
Et la prochaine, ce sera quoi? Parce qu'on peut prendre...
Ah, la suite Madame de Sévigné.
Ah ouais. Et allez, un coup de cœur, Night Night. Pour pas ce dimanche, mais le week-end et le prochain.
Non, on aime beaucoup le Panache. Le Panache qui est justement qui porte bien son nom et qui est
sur
qui,
les grands boulevards. Hein.
Exactement, proche des grands boulevards.
Et qui est tout neuf.
Et qui est tout neuf et qui est canon. Donc,
David Lanner recommande.
Exactement.
À qui on doit le café CERN, etc.
Il y a un restaurant est aussi génial.
Bah, lui, c'est un vrai tenant de la bistronomie. Ouais. Il vient de se colter.
Et Monsieur Glohagen aussi.
Il est vivant avant, exactement.
Bon, bah super.
Exactement.
Nous, on va à l'hôtel, Karine.
On va vous laisser. Mathieu et Colin, merci infiniment à vous. Romain Binet, merci beaucoup à vous. Le Terrace Hôtel, Neukerpeter, le Cube Hôtel, merci beaucoup à vous et Jérôme Chevalier, le Pavillon de la Reine. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous restez avec nous dans une seconde. Le livre de la semaine, la chronique parfum et l'agenda dans Good Luxe. À tout de suite.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Et le livre de la semaine, c'est Emmanuel Rubin qui s'y colle cette semaine parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur et un énorme et beau livre, Emmanuel.
Allez, je sors le matos, là. Un coffret, un ouvrage à l'intérieur du coffret, ça s'appelle Montre rare. C'est signé Paul Miquel. Paul Miquel, journaliste que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, ex-L'Optimum, ex-JQ et aujourd'hui rédacteur en chef de Sport & Style, vous savez, le supplément style de l'équipe, avec une passion du sport et puis depuis quelques saisons de l'horlogerie. C'est devenu un très bon spécialiste. Il écrit donc un bouquin dédié aux montres rares. Alors, des montres rares, c'est difficile d'estimer la rareté d'une montre.
Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de
exactement,
modèles uniques.
Exactement, où ça commence, où ça finit. Il a classé en trois chapitres. Alors, les montres qui sont aujourd'hui des montres, j'allais dire, des stars des enchères, celles qui se sont arrachées dans les auctions diverses et variées. Les montres qui, bien sûr, sont des chefs-d'œuvre d'horlogerie, de par leurs complications. Et puis, les montres de héros. Alors, il y a 50 montres comme cela qui sont richement illustrées et richement racontées. J'en ai choisi une. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Parce que, on va dire que c'est bientôt l'élection américaine. C'est l'Omega Calibre 540 de John Fitzgerald qui l'a dit. Pourquoi? Parce que c'est une montre prémonitoire. En 1960, cette montre, elle est offerte par un député au Congrès démocrate de Floride, à JFK. Sauf qu'elle est offerte quelques jours, quelques semaines même avant l'élection qui va voir JFK triompher de Nixon. Et il grave cette Omega Calibre 540 de cette formule au président des États-Unis de la part de son ami Grant. Sauf qu'il n'est pas encore président. Donc c'est prémonitoire. La montre est assez géniale. Et on a la photo de cette montre dans l'ouvrage. Donc il y a une richesse iconographique assez intéressante. C'est vrai que c'est pété
de petites illustrations et de petites anecdotes. Ça s'appelle Montre rare de Paul Miquel, c'est les éditions Wound.
Ça pèse une tonne, hein. Bah on ne peut pas la porter au poignet.
C'est un très beau livre. Allez, la chronique parfum.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.
Lionel Paillès, bonjour.
Bonjour.
Alors, notre top 5 de la parfumerie de ce mois de novembre.
Alors, je ne vous ai amené que des bonnes choses, parce que je n'ai pas envie d'être méchant.
Vous avez raison.
Bah c'est bien.
Et puis surtout, il y a beaucoup de bonnes choses.
Alors, le parfum le plus sexy.
À la politique, la méchanceté.
Le parfum le plus sexy.
Alors, c'est très délicat de faire de la séduction en parfum, parce que souvent, on y va un peu trop fort sur le dosage. En gros, la bonne façon de faire un parfum féminin, qui est dans le registre de la séduction, c'est la fleur blanche. Donc là, on a un bouquet de fleurs blanches, mais qui est pas trop opulent pour devenir vulgaire, pour parler clairement. Donc c'est un bouquet de fleurs blanches avec de la vanille, de l'héliotrope, donc ce côté un peu amandé, ce qui nous fait un parfum complètement dans la séduction, mais très très élégant. Alors la maison Alaïa, ils ont déjà sorti un parfum il y a un an et demi, qui était très très réussi, plus inaccessible, plus animal, plus compliqué. Celui-ci est à la fois va parler, je pense, à beaucoup de femmes et en même temps, il est très très réussi. C'est le même parfumeur qui s'appelle Marie Salamagne qui l'a signé, donc un très joli parfum, sexy mais pas vulgaire.
Ah, ça c'est bien. Et donc, très joli flacon, c'est sobre, mais en même temps, toujours très chic.
Avec le motif Alaïa, oui.
Voilà. Donc, le parfum le plus vert du moment, on change de tout au tout.
Alors là, les notes vertes avec les notes cuir, c'est les notes les plus compliquées en parfumerie en général. On dit que c'est des notes tellement segmentantes qu'on fait jamais de succès avec des notes vertes, et c'est souvent vrai. Là, Tom Ford, il arrive non pas avec un parfum vert, mais trois. Avec vraiment une trilogie de parfums verts. Moi, mon préféré s'appelle Vert d'encens. Donc l'idée, c'est d'avoir travaillé sur le maquis corse. Donc c'est un parfum très aromatique autour du basilic, de l'encens, du ciste, donc toutes ces matières qui sont un petit peu difficiles d'accès souvent. C'est vraiment extrêmement réussi, à nouveau segmentant comme souvent le fait Tom Ford. Enfin, Tom Ford, il fait se succéder un parfum très facile et grand public mainstream et un parfum plus compliqué. Là, on a une trilogie compliquée.
Le meilleur masculin de la rentrée, un peu votre chouchou?
Oui, alors l'envol de Cartier qui est pour moi la meilleure façon de montrer qu'on n'est pas obligé de faire toujours la même chose en parfumerie masculine. L'envol de Cartier, l'idée du parfumeur Mathilde Laurent, c'était de partir sur l'hydromel. Donc ce vin de miel qui donnait aux dieux la capacité finalement de d'éternité.
Et au terrain, l'ivresse.
Et l'ivresse. Et l'ivresse aussi. Là, l'idée, c'était de partir. Donc, c'est vraiment une allusion à l'hydromel. Donc, il y a effectivement des notes mielées, des notes houblon, bière. Donc, on est vraiment dans l'antithèse de ce qui se fait, c'est-à-dire la fougère, donc le géranium, la lavande qu'on a dans à peu près 80% des masculins. Là, on est carrément autre part. Je suis pas sûr que ça fasse un immense succès au final, mais au moins on a un parfum masculin un peu alternatif.
Citez juste le dernier parce qu'on n'a plus le temps. Le parfum People le plus réussi.
Oui, alors souvent on a droit à Beyoncé ou à Rihanna, et là il y a une maison que moi j'aime beaucoup qui s'appelle État Libre d'Orange qui fait un parfum autour du personnage du Marquis de Sade.
Ah ouais, mais c'est pas un People.
À nouveau avec une parfumerie très osée autour du ciste labdanum qui est une note très résineuse, qui est un parfum 100% ciste. Donc, assez compliqué, mais vraiment tellement audacieux.
Marquis de Sade, attaquer le soleil et l'audace, et qu'on va être obligé de terminer très rapidement pour l'agenda, même pas de jingle. Et Emmanuel, je vais annoncer très rapidement, parce que c'est là, mardi, le 8 novembre, deux choses. Citez-les.
Du côté de chez Drou, la suite de la vente de la bibliothèque de Pierre Berger. Vous parliez du Marquis de Sade, et bien notamment des éditions originales du Marquis de Sade. Et une pièce maîtresse, c'est La scène de la vie de province de Balzac, un ouvrage de bibliophilie qui va partir. À je ne sais
et
combien.
Le Strovot du Harisbar.
Le Strovot du Harisbar. 5 rue Denou, Paris 2e arrondissement. Il faut arriver sur le coup des 19h. Le Strovot, c'est le vote de paille du Harisbar. Toute la communauté américaine vient voter depuis un mois. Elle ne s'est jamais trompée sur ce qui remportera l'élection américaine, sauf deux fois.
Eh ben, on verra ça. Mardi. Merci infiniment, Lionel Paillès.
Merci à vous.
Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour d'autres Good Lux sur BFM Business. À bientôt.
BFM Business, Good Lux Paris, l'édition du week-end.